Alors ne vous en faites pas pour ceux qui n'ont pas vu ou entendu plutôt les trois premiers messages. Je vais essayer de faire un récapitulatif, un petit résumé très rapide, hélas, parce que sinon on n'aurait pas le temps. Mais en tout cas, ça nous donnera une petite idée de ce qui s'est passé au départ de ce psaume 23. Et pour ceux qui étaient là, ben, on va se remettre un petit peu dans l'ambiance de ce psaume. Et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Cantique de David, d'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, oui, c'est notre désir le plus profond, Seigneur, c'est d'être avec toi pour toujours, d'habiter dans ta maison, de te voir, de pouvoir contempler ta face jour après jour, Seigneur. Parce que nous sommes sur terre et nous n'avons qu'une vision parcellaire de ta gloire, de ta magnificence. Et notre cœur, notre âme désire te connaître de plus en plus. Mais nous savons également que nous sommes dans un corps, Seigneur, et que notre vue n'est pas vraiment très perspicace pour te connaître complètement, Seigneur. Et nous te demandons, c'est que par ton esprit, Seigneur, tu nous révèles ton amour, ta face, Seigneur, et que de plus en plus nous puissions te connaître, Seigneur, jusqu'au moment où nous te verrons face à face. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous placer à tes pieds, Seigneur, comme des élèves aux pieds de son maître, Seigneur, et que ta parole puisse nous abreuver, qu'elle puisse nous instruire, Seigneur, et nous faire du bien. Nous ne voulons pas, Seigneur, juste lire ta parole, mais nous voulons la vivre, Seigneur, et c'est ce que ce matin nous voulons découvrir dans ce psaume, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voici au quatrième volet de ce psaume 23. Évidemment, nous n'avons pas vu en détail tous les versets, mais en substance, nous avons développé le premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alors, pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance de ce psaume, n'oublions pas que nous sommes en train d'essayer d'étudier ce psaume, mais avec la vision du berger, n'est-ce pas? Et toutes les applications que nous faisons, eh bien, nous les faisons avec cette vue de ce psaume par un berger, un vrai berger, avec des brebis, qui paie ses brebis, n'est-ce pas? Qui les amène, qui prend soin de ses brebis. Alors, le premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », nous avons vu que pour que les brebis puissent reposer tranquillement, il faut qu'elles soient en sécurité, en premier. Il ne faut pas qu'elles aient de conflits au sein de leur troupeau. Il faut également qu'elles soient libérées de tous les parasites et de tous les insectes qui pourraient les irriter. Et évidemment, et par-dessus tout, il faut qu'elles soient rassasiées. Un mouton qui n'est pas rassasié, il tourne en rond. Et il tourne longtemps, jusqu'à trouver quelques brins d'herbe. Eh bien, nous sommes, évidemment, nous avons fait des applications à nous-mêmes, bien entendu, et c'est vrai que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que chacun ici, nous pouvons dire cela? Est-ce que l'Éternel est notre berger? Certainement. Mais est-ce que je ne manquerai de rien? Et est-ce que je peux affirmer cela tous les jours de ma vie, quelles que soient les circonstances? Le plus important, c'est ça dans notre vie. Je ne manquerai de rien, mais personne ne peut dire ici que jamais il ne manque de rien. Et pourtant, c'est Dieu qui prend soin de nous et qui ne nous fait manquer de rien. Quelle que soit notre situation, nous pouvons nous appuyer sur l'Éternel et nous appuyer sur ses promesses. Alors, est-ce que vous êtes en sécurité ce matin, dans votre cœur, spirituellement? Est-ce que vous n'avez pas de conflit avec d'autres personnes? Et si vous en avez, est-ce que vous avez demandé pardon? Est-ce que vous avez fait le premier pas, peut-être, pour vous réconcilier et pour être en paix? Est-ce que vous êtes libéré de tous ces petits parasites de notre vie courante qui pourraient nous irriter et nous empêcher de vivre cette vie pleine avec le Seigneur? Et surtout, est-ce que vous êtes rassasié de votre Dieu? Est-ce que vous êtes rassasié de la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes rassasié par le Saint-Esprit dans votre cœur? Et c'est, si vous avez ces quatre items, eh bien vous pouvez reposer en paix. Waouh, c'est beau, une brebis dans un pâturage qui repose en paix au pied de son berger. Alors, comme on l'avait dit, c'est très idyllique. C'est une vision avec un berger, une ouette et des brebis à ses pieds. Mais c'est ça, en fait, la vie avec le Seigneur. C'est quelles que soient les circonstances, on peut reposer au pied de notre Seigneur. Alors ça, c'était évidemment un résumé extrêmement rapide, mais bon, ça vous donne une petite idée de la vision que nous voulons avoir de ce psaume. Le second message que nous avons étudié se rapportait au verset « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et nous avons fait évidemment plusieurs applications du côté berger, pastoral, toujours. Et nous avons vu, en fait, que les applications de ce verset, pour nous et pour un pasteur, c'est la sanctification. Et nous avons parlé de transhumance, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui étaient là. La transhumance, c'est le berger qui prend son troupeau, parce que, justement, dans les vallées, en plein été, il n'y a plus d'herbe, tout sèche. Et il est obligé de les faire monter vers les hauts pâturages où l'herbe est encore verte et où il y a encore de l'eau. Et cette transhumance, bien évidemment, nous l'avons comparée à notre vie, notre cheminement dans notre vie chrétienne. Et nous avons dit qu'on pourrait se contenter justement de reposer au pied de notre Seigneur tranquillement, d'être rassasié en sécurité, sans conflit, libéré de tous les parasites, oui. Mais le Seigneur veut plus pour nous. Il veut nous amener plus loin. Et notre vie, c'est cette transhumance de ce troupeau que le Seigneur veut amener plus loin, veut amener vers des pâturages encore plus verts. Mais lors de cette transhumance, eh bien, on voit que le chemin n'est pas toujours simple ni facile. Et il y a des obstacles, il y a des vallées encaissées, il y a peut-être des torrents à traverser. Et il y a des dangers. Et on a vu que pendant cette transhumance, pendant cette sanctification, eh bien, le Seigneur est encore plus proche de nous. Notre berger est à l'affût de tous les problèmes qui pourraient nous arriver, justement parce que ce passage de notre vie est plus difficile. Et comme quelqu'un a prié, eh bien, quand on ne peut plus marcher, le Seigneur qui nous porte. Et ça illustre bien cette transhumance et ce passage de sanctification de plus en plus pour ressembler de plus en plus à notre Seigneur. Le verset numéro 3 qu'on a étudié, donc, c'est « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Alors là, on est en plein dans le berger. Alors on a fait évidemment la distinction, puisqu'on a dit qu'un bâton et une houlette, c'est quand même un bâton. Alors pourquoi y a-t-il deux bâtons dans ce verset, un bâton et une houlette? Bien entendu, s'il y a deux bâtons, c'est qu'il y a deux applications différentes, n'est-ce pas? Et nous, on a vu que le bâton, c'est-à-dire la parole de Dieu, eh bien, sert à nous diriger, sert à nous reprendre certaines fois, et c'est ce bâton que le Seigneur utilise certaines fois pour nous reprendre, ou même pour nous protéger de tous les ennemis qui nous entourent. On a vu que ce bâton, eh bien, il était façonné par le berger naissant, on va dire, qu'il le faisait à sa main, à la dimension qui lui convenait et au poids qui lui convenait pour pouvoir l'utiliser comme arme. Et là, effectivement, la parole de Dieu est réellement une arme. entre nos mains, et le berger peut s'en servir également pour nous reprendre, pour nous remettre dans le droit chemin et pour nous instruire. Alors la houlette, vous me direz à quoi ça sert? Donc on a vu que le bâton, eh bien, c'était la parole de Dieu. La houlette est utilisée par le berger juste dans la plus grande des douceurs. Jamais un berger n'utilisera sa houlette, qui est un bâton recourbé, vous savez, jamais pour frapper une brebis, même un loup. Il va utiliser le bâton pour cela. Mais sa houlette, il va l'utiliser pour ramener les brebis, pour les diriger doucement, pour ramener les petits vers sa mère, sans le toucher, parce que s'il le touchait, le bébé serait rejeté, l'agneau serait rejeté par la mère. Donc voilà l'utilité de la houlette, et on a comparé bien entendu la houlette au Saint-Esprit dans nos vies, qui ne nous impose rien, mais qui nous dirige dans la douceur et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un petit peu, un paysage brossé rapidement de ce qui s'est passé dans ce psaume 23. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'est un paysage très berger, mais c'est voulu. D'ailleurs, j'ai retiré tous ces messages un petit peu, et je le dis chaque fois, d'un livre, Le berger médite le psaume 23. Je me suis appuyé beaucoup sur ce livre parce qu'il m'a beaucoup touché quand je l'ai lu, quand je l'ai relu même. Et je voulais faire, ça fait déjà beaucoup de temps, des messages sur ce livre et sur ce psaume 23, vu du côté du berger, étant donné que David était réellement un berger également. Hein, et c'est David qui a écrit ce psaume. Et on voit bien les similitudes qu'on ne pourrait pas voir peut-être de prime abord, et qui nous donne un éclairage particulier quand on le prend du côté pastoral. Alors, ce matin, nous continuons dans notre quatrième message, et nous allons utiliser pour cela le verset qui nous dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». C'est tout un message, évidemment. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Alors, on n'oublie pas, évidemment, qu'on va regarder ce verset du côté pastoral, pour ne pas déroger à notre habitude. Alors, ce psaume rappelle des faits saillants de la vie d'une brebis, hein, tout au long de l'année, on est bien d'accord. De la bergerie, dans la plaine, pendant l'hiver, où tout est aménagé par le propriétaire, en passant par la transhumance, période de montée vers les hauts pâturages où il y a abondance d'eau et d'herbes vertes. Alors, vous allez me dire, mais à quelle époque de l'année correspond ce verset 5 ? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et que représente cette huile dont la tête de la brebis est couverte ? Waouh ! Voilà une bonne question. Alors, tout d'abord, le troupeau est maintenant parvenu dans les hauts pâturages, et il y a abondance d'herbes, il n'y a pas de souci, et il y a beaucoup d'eau. Alors là, je ne dis pas, mais les brebis s'en donnent à cœur joie, elles se remplissent la panse. Et elles font bien parce qu'elles sont là pour ça, puisqu'il faut qu'elles rapportent à leur berger, n'est-ce pas? Il faut qu'elles portent du fruit en quelque sorte, il faut qu'elles s'engraissent pour être de bonnes brebis qui donnent du bon lait et de la bonne viande. Nous sommes, à ce moment-là, en plein été, puisque nous sommes dans les hauts pâturages. Alors, sur ces hauts plateaux, l'été est vraiment une saison des mouches. Alors là, on va commencer à parler de choses beaucoup plus désagréables. Je suis désolé, mais c'est comme ça. On penserait que dans les verts pâturages des montagnes, tout est idyllique et merveilleux. Il y a des bons côtés. L'herbe verte, l'eau en abondance, mais il y a aussi ces mouches et d'autres choses encore plus désagréables que nous verrons tout à l'heure, qui vont empoisonner un petit peu la vie de ce troupeau. Et aussi du berger, bien entendu, puisque ça va lui donner beaucoup, beaucoup de travail. Donc c'est bien la saison des mouches l'été. À l'arrivée des chaleurs, des milliers d'insectes surgissent et attaquent littéralement le troupeau à ce moment-là. Alors là, danger. Plusieurs sortes de mouches et de moustiques harcèlent le troupeau Les attaques peuvent torturer les animaux même et les pousser même presque à la folie. On va voir pourquoi. Nous relèverons particulièrement donc deux sortes d'insectes qui sont un fléau pour les troupeaux de moutons. Et c'est là notre sujet ce matin, ce sont ces deux fléaux. Alors je vous ai dit qu'on allait parler de choses désagréables, mais il y a aussi le remède. Ne vous en faites pas. Alors le premier insecte que nous allons étudier en détail, ce sont les mouches nasales. Berk. Qu'est-ce que c'est que ces insectes? Alors, c'est des insectes qui bourdonnent autour de la tête des animaux et déposent leurs œufs sur la muqueuse humide de leurs narines. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça me rappelle un film du genre Alien et compagnie. On en était presque arrivé là, et d'ailleurs, la suite, c'est un peu ça. Donc, ces œufs se transforment en quelques jours en larves minuscules qui vont remonter par le nez vers l'intérieur de la tête de l'animal. Ça va? C'est bon? Bon, je pourrais. J'ai pas fini encore. Elles creusent dans la chair, déclenchant une intense irritation et une forte inflammation. Alors, pour s'en débarrasser, heureusement, il y a quelque chose, les moutons se heurtent la tête contre un peu tout ce qu'ils peuvent trouver, des troncs, des rochers, des arbustes. Et un animal peut même aller jusqu'à se tuer pour se soulager de ce supplice, on peut le comprendre. Hein ouais. Nous, on se cure le nez, mais c'est pas très joli, mais au moins. Mais elles ne peuvent pas, elles n'ont pas de main. Et un stade avancé, l'infection provoquée par ces mouches peut aboutir à la cécité, et même jusqu'à la mort. Certaines fois, dans les cas désespérés, on va dire. Mais bon, un mouton aveugle, c'est un peu embêtant. Alors, lors de l'apparition de ces mouches, les troupeaux sont pris de panique. Ils connaissent le problème. Et cette excitation a un effet désastreux sur le troupeau tout entier. Les brebis et les agneaux dépérissent et perdent du poids. Les brebis donnent moins de lait. Et l'agneau, mal nourri, ne peut plus se développer normalement. Des moutons se blessent dans leur tentative de fuite, d'autres deviennent aveugles ou même peuvent mourir, on l'a dit. Ce fléau est une vraie calamité et seule une vigilance et une surveillance de l'état des animaux pourra prévenir les difficultés de cette saison des mouches. Et c'est là que rentre en jeu, bien entendu, le berger. Heureusement qu'il est là. Quelles sont donc les solutions à la disposition du berger pour prévenir ce fléau? Et vous allez voir, il y a quelques applications rigolotes. Dès le premier signe d'invasion, il va appliquer justement de cette huile mélangée à du soufre et du goudron sur la tête de la brebis et sur ses narines. Alors de l'huile mélangée avec du soufre et du goudron. Ça ne doit pas sentir très bon, mais au moins, ça soigne. D'où l'image utilisée par David, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Une fois cette mixture appliquée à tout le troupeau, la nervosité, l'irritation et les mouvements désordonnés disparaissent et les troupeaux retrouvent sa sérénité. Mais alors combien il y a de brebis dans un troupeau? Surtout, dans ces contrées, certaines fois, il y a des milliers de brebis. Il faut les faire une par une. D'où le travail dont je vous parlais pour le berger. Travail harassant, jour et nuit, pour protéger son troupeau. Alors, vous allez voir, évidemment, l'application est évidente pour nous. Nul besoin, pour nous chrétiens, de passer par des moments extrêmement difficiles pour être abattus. On est fragile, c'est vrai. On n'a pas besoin de grandes épreuves pour se plaindre. Alors nos irritations personnelles, les petits ennuis, les vexations de tous les jours, les mesquineries suffisent souvent à troubler notre repos. Alors tout le monde vit ça un petit peu à droite et à gauche, hein, dans la vie professionnelle surtout. petite pique, petite phrase acérée certaines fois, et évidemment, on n'est pas content. La constante répétition de ces petits tourments anodins, seuls, peuvent finir par nous mettre hors de nous et à changer nos sentiments chrétiens en d'amères frustrations. C'est bien dit quand même, admettez-le. Oui, c'est facile d'avoir de l'amertume. Nos irritations, tout le monde en a, quelque part. Si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes mort. On est en train de se frotter les uns aux autres, même dans l'Église. Imaginez à l'extérieur. Évidemment que ces irritations ne sont pas très agréables. Mais quand même, ce ne sont que quelques petites irritations par rapport à ces mouches nasales, tout à fait dégoûtantes d'ailleurs. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais tous ces petits ennuis sont en quelque sorte nos mouches nasales à nous. Comme les brebis, nous avons besoin d'une application d'huile divine renouvelée chaque jour pour éviter l'inflammation que peuvent produire ces mouches ou ces irritations. Tous ces petits désagréments, comme pour les brebis, l'application de cette huile ne nous protège pas pendant tout l'été. Parce que le berger, lui, il est obligé de recommencer de temps en temps. Je ne vous l'ai pas dit, ça. Parce qu'il fait ça une fois, mais quelques temps après, quelques semaines après, il est obligé de recommencer souvent. Parce que justement, cette huile a disparu petit à petit. Et là, les mouches reviennent. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Nous avons aussi besoin du renouvellement quotidien de l'huile du Saint-Esprit sur nous. Alors seulement, nous serons efficacement protégés. Alors, vous allez me dire, dans Luc 11, 13, on voit « Si, donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Alors demandez, demandons, pour être protégés. Le Saint-Esprit ne nous appartient pas, on ne peut pas le fabriquer nous-mêmes. On est obligé de le demander au Seigneur. Mais il faut le demander, c'est vrai. Il ne vient pas tout cuit, quelque part. Et c'est journellement qu'il faut faire cela. Il faut se tenir dans la présence du Seigneur. Et effectivement, il faut se mettre dans la bonne position et au bon endroit pour pouvoir être baigné du Saint-Esprit. Si on court sans arrêt, sans s'arrêter, si on ne prie plus, si on ne lit plus la parole de Dieu, ben le Saint-Esprit, il est là, mais on ne va pas le ressentir comme si on était au pied du Seigneur tous les jours. Mettons-nous dans la bonne position, au pied du Seigneur. On appelle ça des disciplines spirituelles, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est le mot discipline qui ne plaît pas à tout le monde. D'ailleurs, ça plaît à peu de gens. Je suis désolé, mais les disciplines spirituelles, ça sert à quoi? Ça sert justement à se mettre dans la position où on peut recevoir du Seigneur. Étant donné qu'on le sait maintenant, qu'on ne peut pas produire la sainteté nous-mêmes, eh bien, on est bien obligé de la recevoir du Seigneur. Mais pour cela, nous devons être dans la bonne position et ouverts au Saint-Esprit pour pouvoir justement recevoir cette sanctification que nous ne pouvons pas atteindre tout seuls, dont seule l'onction journalière du Saint-Esprit produit dans la vie du croyant la joie, l'amour, la patience, la douceur et la paix. Tout cela sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. N'essayez pas, ce n'est même pas la peine. Tôt ou tard, vous aurez justement ces petites mouches nasales qui vont venir vous perturber, vous irriter, et vous ne pourrez pas résister à cette irritation si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous aide à ce moment-là. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler de choses désagréables ce matin, Bon, on a commencé déjà, les mousses nasales, c'est pas terrible hein, quand même. C'est plutôt... c'est pas joli. Enfin, les mouches encore, on connaît, mais alors les œufs qui remontent dans le nez, hein, ça, c'est pas joli. Eh bien, il y a pire encore. Parce que ces troupeaux, en fait, sont attaqués l'été, non seulement par des mouches, mais aussi par de la gale. Alors la gale, tout le monde le sait, ça. Ça gratte. Ça gratte pour nous, mais pour le mouton également. Alors cette maladie irritante et contagieuse est commune à tous les moutons du monde. Parce que ça, ils aiment bien. Elle est provoquée par un minuscule parasite qui prolifère pendant les chaleurs. Et ce minuscule parasite se répand rapidement dans le troupeau, en plus. Par contact direct entre les animaux infectés et les animaux sains. Alors, pour cette maladie, comme pour les mouches nasales, le seul remède efficace est une application de l'huile, de soufre et de produits chimiques. Un petit peu la même façon de traiter le mal, en quelque sorte. Et dans beaucoup de régions, le troupeau entier est plongé dans des bassins aménagés à cette intention. Ainsi, chaque mouton est immergé complètement jusqu'à ce qu'il soit imprégné de la solution, donc d'huile et de produits chimiques, pour le débarrasser de cette gale qui est difficile à éradiquer. Ce bain doit être répété plusieurs fois également afin d'assurer la disparition complète de la gale. Alors, évidemment, je ne vous le dis pas, mais le travail est très contraignant, évidemment, pour le berger, et c'est très long, car il faut traiter individuellement la tête de chaque mouton, puisque c'est là que réside le problème. Et je ne vous le dis pas, le mouton, il ne se laisse pas faire. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Hein. Mais dans ce bouquin que j'ai lu, si intéressant, apparemment, les moutons, ils n'aiment pas du tout ça. Bon, ils n'aiment pas la gale non plus, mais ils ne savent pas qu'avec ce genre de remède, ça va les débarrasser de ça. Donc, on l'a vu sur le premier message, le mouton, lui, il est un peu stupide. Et la brebis, pareil. Et évidemment, le berger, c'est Dieu, les brebis, c'est qui? C'est nous. C'était pas sympa, mais bon, ça reflète un petit peu la réalité, quelque part. Alors, notre seconde application aujourd'hui est assez évidente, là. Je vous parle. La gale qui sévit parmi les moutons peut être comparée un petit peu à ce qui ressemble dans l'Ancien Testament, à la lèpre dont nous parle cet Ancien Testament. On peut le voir dans Lévitique 13, 9 à 11. On parle de lèpre, etc. Donc c'est une attaque de la peau. Et c'est le type du péché dans l'Ancien Testament. Oui. Alors, on a vu les mouches nasales, les irritations, les petits accrochages qui peuvent aboutir à des péchés dans notre vie, bien entendu. Mais là, on parle directement du péché qui s'installe. Et dans notre vie chrétienne, nous pouvons être donc contaminés par le péché qui nous entoure. Effectivement. Le monde où nous vivons va essayer de nous faire rentrer dans le processus de corruption, en quelque sorte. On est obligé de vivre dans ce monde. On ne peut pas en sortir. Et même le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. D'accord. Les médias, la société de consommation, les loisirs, l'éducation sont des occasions de basculer, certaines fois. N'oublions pas que le monde, avec tout ce qu'il renferme, est sous l'emprise de Satan. D'accord ? Ce que nous voyons d'ailleurs à la télévision est rarement honorable et sain. Ou alors il faut vraiment trier. Pourtant, Philippiens 4:8 nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est tout un challenge, ça. C'est pas facile, hein ? Vous vous rendez compte ? Tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas sain, etc., ne doit pas rentrer dans notre tête. Ou en tout cas en sortir très rapidement. On ne peut pas empêcher les pensées d'arriver, mais par contre, On peut empêcher qu'elle s'installe. Ça, c'est une autre affaire, hein, n'est-ce pas? Alors, comment appliquer ce commandement de l'Écriture dans nos vies? Alors, humainement, c'est impossible. Seule l'onction de l'Esprit peut nous rendre capables de vivre une vie sainte. Alors, Romains 8, 1 à 2 nous dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ok. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors, qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort? L'Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la position où vous pouvez recevoir tous les jours l'onction du Saint-Esprit, vous risquez d'être en danger. Alors, combien nous ressemblons à ce troupeau de moutons? Comme sans les soins constants du berger, le troupeau courait à sa perte. Aussi, nous serions tous condamnés à l'échec sans l'intervention de notre berger Jésus-Christ. Combien notre Sauveur veut nous oindre d'huile pour nous protéger du péché et des agressions de la vie? Et combien souvent nous protestons et nous nous débattons? Évidemment, le fait de vouloir recevoir l'Esprit tous les jours, d'être loin du Saint-Esprit, ça demande un effort. Il y a un prix à payer tous les jours de consécration. Et souvent, nous nous débattons parce qu'on n'a pas envie, justement, de payer ce prix-là. Ou alors, on marchande. Je ne peux pas payer un peu moins cher. Mais le prix, c'est le prix. Et ce n'est pas nous qui le fixons, c'est le Seigneur. Alors vous allez me dire, oui, mais mon voisin chrétien, lui, il paye moins cher que moi. Oui, c'est vrai, ça arrive souvent. On n'a pas tous les mêmes épreuves, on n'a pas tous la même consécration, c'est vrai. Mais ça, c'est le Seigneur qui décide. Alors évitons de nous comparer les uns les autres, ça évitera aussi tous ces problèmes. Et focalisons-nous sur Jésus, parce que c'est lui qui va nous dire où marcher. N'oublions pas que nous sommes un peuple aux coups raides. Je le répète assez souvent, parce que c'est vrai. Je trouve que j'ai un petit peu les cervicales un peu raidies en ce moment aussi. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on est un peuple aux coups raides. Autant l'Israël l'était, alors on va se dire, ah ben oui, mais nous on a le Saint-Esprit, on a Jésus-Christ, donc, mais si, on a aussi les cervicales raidies. Souvent, hélas. On n'est pas meilleur qu'Israël et le Seigneur doit nous reprendre comme eux. Mais la compassion de Jésus-Christ nous protège. Il nous soigne et nous protège malgré nous, certaines fois. Heureusement, Jésus nous connaît et il sait que nous sommes faits de chair. Il connaît aussi nos faiblesses, mais il nous a choisis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et c'est pour ça qu'il induit notre tête pour nous protéger et que notre coupe déborde. Alors, vous voyez, tout n'est pas idyllique dans ce troupeau qui chemine, qui est arrivé dans les verts pâturages, en haut, dans la montagne. Et même comme ça, où ils ont abondance de nourriture, ils sont quand même, ce troupeau est quand même sous l'influence de ces mouches nasales et de cette gale. Heureusement que le berger est là avec ses remèdes, son remède principal, le Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit. N'oublions pas que nous devons être plongés dans ce remède plusieurs fois par semaine, voire tous les jours si possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis né de nouveau, oui. Mais l'onction du Saint-Esprit, ça, c'est tous les jours qu'il faut l'avoir pour pouvoir être sanctifié, voire vivre notre vie chrétienne pleinement. Alors, vous êtes chrétien, oui, mais vous voulez aller plus loin, alors mettez-vous dans la bonne disposition de cœur par les disciplines spirituelles. Je vous dis encore, des mots qu'on a peine à entendre certaines fois, discipline, parce qu'il faut de la discipline pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas gratuit, en quelque sorte, le salut est gratuit, mais la marche avec le Seigneur demande un effort. Il ne faut pas l'oublier. Et effectivement, on n'a pas une vie chrétienne linéaire où tout va bien toujours. On peut, certaines fois, avoir des petits fléchissements, mais n'oublions pas de revenir toujours auprès de notre Seigneur, qui aura compassion de nous, qui nous pardonne tous les jours et qui nous oint d'huile notre tête pour nous protéger. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons nous placer à tes pieds, Seigneur, comme des moutons, comme des brebis, pour que tu nous protèges par l'huile de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi pour cheminer, Seigneur, dans cette vie chrétienne si difficile certaines fois. Mais nous avons confiance dans notre berger Jésus-Christ, Seigneur, qui a payé le prix pour chacun d'entre nous. Et nous nous plaçons sous son sang, Seigneur, pour pouvoir recevoir de toi une vie pleine de sanctification, d'amour, de paix et de joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.